Alors, écoutez, on a surtout envie de vous écouter, vous. Hein. D'ailleurs, tu me l'avais dit que tu voulais la formuler. Vas-y.
La première question qu'on se pose, ben, c'est comment va votre morale
là-bas?
Moralement, comment ça se passe?
Alors, ça dépend de notre morale personnelle ou celui des Ukrainiens?
Le vôtre. Mais je pense que ça va être lié, j'imagine.
Ça va être lié, évidemment, tout.
Ça va très bien, ça va très bien. Bah nous, déjà, on n'aurait pas vraiment de raison d'avoir un mauvais moral, puisque on est uniquement spectateur, si on ose dire. C'est-à-dire que il y a beaucoup de familles qui sont en deuil, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se battre, il y a beaucoup de gens qui souffrent, etc. Il y a des familles qui sont séparées, il y a des gens qui sont en territoire occupé. Donc, c'est les Ukrainiens qui sont en première ligne et qui souffrent le plus.
Oui.
Donc, c'est plutôt leur morale à eux qu'il faudrait sonder. Le nôtre, il n'est rien, en fait. Enfin, ça va. Et puis, quelle raison on aurait de se plaindre, enfin, comparé à eux.
Oui.
Donc, la question, elle glisse. Et, le moral des Ukrainiens, bah, ils sont égaux à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement braves, extrêmement admirables.
Oui.
J'ai pas vraiment l'impression, mais je pense aussi que c'est ton avis et l'avis de Anne aussi, je pense pas qu'ils aient l'envie de lâcher quoi que ce soit.
Oui.
Et même dans les sondages, les courbes, pour quand il y a des sondages qui sont faits par des organes nationaux comme ou des journaux indépendants comme le Kiev Independent, ils sondent et ils demandent aux Ukrainiens si. Ils peuvent encore, il y a trois options, donc c'est vous êtes prêt à tenir moins de 6 mois, vous êtes prêt à tenir environ 1 an, vous êtes prêt à tenir aussi longtemps que nécessaire, et puis il y a plus de 60% des Ukrainiens qui répondent aussi longtemps que nécessaire.
Oui, oui, je suis les sondages, moi aussi, dès qu'il en paraît, et ils sont prêts maintenant pour 10 ans, hein, les dernières réponses, c'est ça. Ça va faire d'ailleurs 4 ans dans quelques jours, c'est-à-dire autant que la Première Guerre mondiale, etc. Enfin, c'est quand même.
Ouais. Après, excuse-moi, par rapport au moral, par exemple, au nôtre, qui est aussi qui permet aussi de réfléchir à une certaine réalité, puisqu'on vit quand même sur place.
Ben évidemment.
C'est-à-dire qu'il dépend complètement des frappes. Donc il y a eu encore une frappe cette nuit. Et par exemple, cet été, je me souviens très bien qu'il y avait énormément de frappes, presque une toutes les semaines. Et c'était des frappes qui étaient très meurtrières. Il y avait vraiment beaucoup de civils, beaucoup de deuil, et même les destructions étaient vraiment visibles dans la ville. Et je me souviens que cet été était moralement dur, vraiment là où on dit il faut que je fasse attention quand même à ma santé mentale. Mais puisque voilà, les frappes, elles sont encore présentes. Par exemple, quand il n'y a pas de frappe pendant 10 jours, on a l'impression que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de frappe. Mais là, ce sont quand même des frappes qui touchent plus le secteur de l'énergie. C'est-à-dire qu'on est dans le matériel. On n'est pas dans le terrorisme. On n'est pas dans le massacre des gens qui sont en train de dormir chez eux. Mmh. Donc, moralement, même si l'hiver est rigoureux, donc aussi ça joue, la saison est importante. Mmh. Mais je trouve que, par exemple, par rapport au ressenti de l'agression, elle est moins forte quand on est à Kiev, par exemple, moins forte que cet été.
Et
un faisceau de facteurs.
Alors, question haletante de ma part, parce que je suis les informations de l'Ukraine toutes les deux heures depuis 4 ans. Quand tu dis, Anne, que les frappes seront peut-être un petit peu moins fréquentes, est-ce que vous sentiriez un affaiblissement de la puissance russe, de la puissance de frappe ou pas? Est-ce qu'il commence à s'épuiser?
Alors,
ou pas?
Les frappes sont un petit peu moins fréquentes, mais on parle de Kiev, mais après, je pense qu'elles sont plutôt en hausse au niveau national.
Oui, au niveau de Odessa, en ce moment, c'est plutôt Odessa, Dnipro qui sont visés. Il y a aussi beaucoup Kharkiv a toujours souffert. Donc cette ville, grande ville au nord, en français, en général, on prononce Kharkiv, mais en ukrainien, c'est Kharkiv. Là, c'est par rapport à Kiev. Le ressenti dans la ville de Kiev, avec les frappes sur le secteur énergétique, qui a aussi un effet sur le moral, parce que on a presque que 2 heures d'électricité par jour.
Oui, oui, je sais.
Les gens sont dans le noir. Comment occuper des enfants dans ces circonstances? Il y a beaucoup de... toute la ville est un peu dépeuplée. Il y a beaucoup de gens qui sont partis dans des villes qui sont déjà moins exposées, et aussi il y a moins de coupures de courant. Parce que là, Kif, en ce moment, c'est 2 heures. Donc il y a aussi un peu quand même une pesanteur morale de sentir quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, ce qui n'est jamais très bon signe.
Après, sur l'affaiblissement de la puissance russe, tu as une idée, David, quel est ton avis?
En tout cas, en termes d'attaque d'attaque aérienne, elle a vraiment augmenté depuis l'élection. D'ailleurs, il y a un graphique qui est très spectaculaire depuis l'élection de Trump.
Ah, oui.
Donc, je pense que là, on n'est pas du tout dans une baisse. Mais par contre, ça dépend peut-être, Jean-Philippe, je souscris absolument à tout ce qui a été dit, mais ça dépend un petit peu quand même de là où on se trouve, en Ukraine. Et en particulier si on parle des habitants de Kiev. Moi, j'ai toujours pas trouvé le terme pour expliquer. Le mot de résilience ne correspond pas du tout.
Ouais, d'accord.
C'est un mot que j'aime pas du tout, mais c'est vrai que à 2h30, il y a eu des frappes quand même de missiles balistiques, donc c'est très bruyant. Le lendemain, c'est la vie normale, quoi. Les gens qui sont là vivent absolument, il n'y a aucun sentiment de panique, aucun sentiment de terreur. Mais je ne sais pas comment qualifier cette espèce de résistance, ordinaire, la plus magnifique et la plus simple, et qui relève pas d'une thérapie ou de voilà. Donc je sais pas, j'ai pas trouvé le terme pour dire ça.
Mais
stoïcien ou de
stoïcisme certainement.
Il y avait un peu de ça.
Mais je trouve David que là vous venez de cerner quelque chose. On trouve pas les mots, mais il se passe quelque chose. C'est pas le blitz londonien. C'est pas exactement ça, même si c'est admirable. C'était admirable. C'est le même taux d'admiration que ça suscite en nous. Parce que ce qui nous frappe aussi, c'est ce que vous écrivez les uns et les autres sur ce que vous vivez là-bas. Vous êtes allé là-bas, vous êtes allé sous le feu quand même. Vous dites nous, on risque rien. Si vous risquez, hein. Au fond, on est très attaché à cela. C'est-à-dire que qu'est-ce que la littérature apporte à la réflexion ou à la description politique? Elle apporte beaucoup, on le sait, dans certains cas. On a vu le texte par exemple de l'espagnol Cercas qui est paru de manière internationale et donc dans le monde aussi, sur le fait que cette guerre en Ukraine, c'est toute proportion gardée l'équivalent de ce que fut la guerre en Espagne en 1936. Donc c'est là qu'on rentre dans le vif de notre sujet, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que ça a été votre motivation d'aller là-bas, d'essayer de décrire de plus près, de comprendre de plus près, parce qu'on est hanté par ça. Moi, j'ai beau ne pas y être, on est hanté par cela. Donc, je vous comprends. Hein. Enfin, on vous comprend. Donc, est-ce que vous croyez pas que c'est peut-être ça le travail qui vous incombe et que vous essayez de faire, c'est-à-dire formuler ce qui ne se formule pas? Moi, j'ai essayé de le faire, par exemple, pour l'élection de Trump, parce que les analyses sociologiques, politologiques, tout ça, ça suffit pas. Il y a quand même une dimension de carnaval et de régression intellectuelle qui est une immense euphorie, une immense hystérie. Et c'est un phénomène nouveau. Et je crois que seuls les écrivains peuvent dire une chose pareille. Donc là, vous êtes dans ce vif-là du sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que la littérature apporte à la politique? Et on...
C'est très intéressant parce que c'est une discussion qu'on a eue la semaine dernière avec David à la maison. On a exactement abordé ce terme. Et puis on a immédiatement, instinctivement fait le parallèle avec la guerre d'Espagne. Mais après, qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qui est peut-être terrible par rapport à cette époque qui a produit, c'est sûr, des écrivains extraordinaires et des textes extraordinaires, c'est peut-être la présence, moi ça m'a beaucoup frappé, la présence des réseaux sociaux qui aujourd'hui consiste à énoncer des opinions sur une guerre dans laquelle les gens ne sont pas. Donc c'est peut-être que ce qui nous a motivés, c'est simplement de faire confiance à ce qu'on peut ressentir à nos oreilles, à nos yeux, et se dire que c'est la plus grande guerre sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça nous arrive à nous en tant qu'Européens.
On est bien d'accord.
Comment on peut ne pas vouloir en avoir une vision directe, voilà, une expérience directe. Mais vous savez, Jean-Philippe, le fait, moi j'ai le sentiment que vous y êtes aussi d'une certaine manière. C'est là où on peut élargir un petit peu le domaine de l'expérience, parce qu'il est clair que votre et là, c'est un vous général, hein, mais que votre écoute, que votre présence, que votre... est presque... enfin, une présence physique en Ukraine. Et c'est là où il y a une fraternité extraordinaire.
Ah, oui.
C'est là où il y a une fraternité extraordinaire. Enfin, moi, je sens très bien qu'on est entre amis ici.
Ah, ça fait du bien, d'ailleurs. Oui.
C'est extrêmement touchant, émouvant, parce qu'au fond, l'Ukraine, on la porte en soi aussi. Ce n'est pas simplement le fait d'être acquis. Alors, certes, c'est très important d'y être, mais je pense, j'ai rencontré comme ça des amis de votre qualité qui portent l'Ukraine en eux et qui vivent l'Ukraine tous les jours. Donc, peut-être que l'Ukraine, ben, c'est comme la guerre d'Espagne, c'est une dimension transcendantale qui est presque extra-géographique. Mais enfin, c'est sûr que selon les endroits où on se déplace sur le front, ben, l'expérience n'est pas tout à fait la même et que ces nuances sont peut-être l'objet même de la littérature. Arriver à établir des nuances là où, avec les réseaux sociaux, on n'a que des opinions. Voilà. Mmh. Et voilà, dépasser, je pense, l'opinion pour accéder à l'expérience, c'est ce qui nous réunit tous, je crois.
Mmh. Et moi, je terminerai pas en voulant. J'ajouterais peut-être que par rapport à la littérature, en effet, elle est au cœur, enfin, en fait, elle est presque à la racine de l'intérêt qu'on porte.
Bien
à
sûr.
Ce qui se passe ici, puisque ce qui est aussi une vision du monde, et à la racine aussi, de, par exemple, du fait qu'on y soit, mais aussi, elle a... être ici, ça a renfloué, ça a comme redonné un sang neuf aussi à l'approche littéraire, et ça lui a redonné sa nécessité, voilà. C'est-à-dire une littérature utile aussi, et justement, ce n'est pas péjoratif.
Merci Anne de dire des choses pareilles, parce que sur la nécessité de la littérature, la nécessité absolument vitale. Oui.
Ajouter un petit quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, Anne, et tout ce que vous avez dit. C'est, votre question, Jean-Philippe, c'était sur qu'est-ce que peut la littérature finalement.
Oui.
Quand on se sent désarmé, quand on se sent presque parfois inutile par rapport à ce que d'autres affrontent en premier lieu. Il me semble aussi, et ça rejoint aussi la question des réseaux sociaux, qui quand même fonctionnent sur un temps extrêmement court, où on passe d'un événement à l'autre, d'un scandale à l'autre, et je pense que des hommes comme Trump, etc., ont très bien compris comment ça fonctionne, et leur but, c'est d'occuper la scène avec à chaque fois une nouvelle déclaration, un nouveau scandale, une nouvelle action, non-action, etc. La littérature, c'est quand même, j'ai presque envie de dire ce luxe, mais c'est terrible dans ces circonstances de dire ce luxe, c'est le luxe du long terme, c'est bien d'avoir la capacité quelque part d'envisager les choses non pas sur le point chaud, on va dire, mais de se dire, moi, je vais rester sur ce qui se passe là, et je vais l'examiner, et je vais passer un temps, en fait, avec cet événement-là, ce qui apparaît comme un événement, mais qui, en fait, est bien plus large que ça. Et dans le cas de l'Ukraine, je pense qu'on le sait tous, Et quand on discute avec les Ukrainiens ou les auteurs ukrainiens, ils ont à cœur à chaque fois de dire mais cette guerre, elle n'a pas commencé en 2022, et c'est quelque chose en fait. Eux, donc, et ça rejoint aussi cette question de résilience. Moi non plus, David, tu le sais, j'aime pas du tout ce terme. Je trouve que c'est un chantage en fait assez odieux, et c'est un poids énorme qu'on fait peser sur ceux qu'on honore de la résilience. C'est-à-dire victime, mais bonne victime. Hein. C'est-à-dire qu'on est capable de se reconstruire, c'est merveilleux, et très rapidement.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec
voilà.
ça.
Ah, c'est, voilà, allez, bon, vous souffrez, mais oh là là, vous êtes fort. C'est
odieux, oui.
c'est odieux. Oui, oui. Mais donc, cette question-là, en fait, de ce temps court, de ce temps... par exemple, on le voit bien par rapport à l'Ukraine, l'Iran a presque chassé l'Ukraine, en fait. De l'intérêt immédiat. J'ai envie de dire, c'est dégueulasse pour l'Ukraine, c'est dégueulasse pour l'Iran, parce que qu'est-ce que sera le prochain événement, le prochain point chaud de la planète? C'est affreux, ce rythme-là. La littérature, c'est de la perspective, c'est de la profondeur, la perspective est en hauteur et en surface, c'est dans le temps aussi, c'est-à-dire comprendre d'où vient ce conflit. C'est de la géographie aussi, c'est-à-dire, comme tu disais, David, ou comme vous disiez... Anne et Laurent, c'est la capacité de dire mais comment les autres le vivent à 100 km, à Lviv, à Kharkiv, à Odessa.
Oui.
Ça, moi, il me semble qu'il n'y a que la littérature qui permet ça, pourvu qu'on se laisse le temps, et le temps est un luxe dans cette histoire, et une forme de résistance aussi, de faire céder à lui.
Je suis d'accord sur ce point fondamental. C'est vraiment ce qui nous réunit.
Il y avait quelque chose que je voulais ajouter, c'est-à-dire que. En fait, bon, il y a eu coup de projecteur sur l'Ukraine en 2014 avec la Crimée, etc. Bon,
oui.
Après, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans maintenant, presque 12. C'est un peu passé aux oubliettes parce que l'actualité roule son boulet très vite et puis bah, on passe à autre chose. En 2022, quand même, on a tous été un petit peu surpris. Et puis, on s'est dit, en tout cas, nous personnellement, on s'est dit l'Ukraine. Alors, la capitale, c'est Kiev. Et après, qu'est-ce qui... Enfin, en 2022, on s'est rendu compte qu'on avait un gros point d'interrogation. Alors, quels sont... Par exemple, la première question, c'est quels auteurs ukrainiens on connaît en 2022. La première question, qu'on s'est posée. Quels auteurs ukrainiens on connaît et qu'on a lu? Et franchement, il y a un seul nom qui nous a apparu, c'est Shevchenko. Parce qu'après... Gogol, on n'a pas trop su, en russe quoi, enfin bref, et puis etc. Alors, du coup, on s'est dit qu'il y avait une terra incognita culturelle absolue en Ukraine, et puis que c'était un pays qui était à 2000 km de Paris, c'était quand même une honte parce que, bah mince quoi, on s'est rendu compte qu'on connaissait plus le Cambodge que l'Ukraine. C'était, donc il y avait aussi un culturel, c'est-à-dire qu'on y allait en auteur, bon, il y avait cette histoire du témoignage et tout, qu'on vient de traiter. On y allait aussi en lecteur, tout simplement.
Pardon, Laurent, vous êtes arrivé à quel moment exactement? Vous avez dit, c'était en 2000, vous êtes arrivé en 2022? Vous avez...
Non, décembre 2023. Nous, on a eu du temps, on a pris du temps, on n'a pas pu y aller.
Non, c'est juste pour resituer, je ne savais pas, je n'avais pas cette information. D'accord.
Il y a 2 ans et 2 mois, c'est ça.
D'accord.
Et en fait, on s'est rendu compte que la littérature ukrainienne a été et est encore... plus que jamais, extrêmement dynamique et extrêmement de qualité. C'est vraiment une littérature de qualité.
Quand tu dis dynamique, en ce moment, et on a vu, grâce à la communication qu'on essaye d'avoir avec vous, par les réseaux sociaux et tout, David et Olivia, vous avez souvent témoigné pour des artistes, vous nous avez donné la possibilité de l'entendre. Donc vous sentez que pendant ce temps, je pèse le mot, ils sont très créatifs, très créatifs.
Absolument. Alors ça, c'est aucun doute. Aucun doute. Je parle même d'une renaissance. Il y a eu la fameuse renaissance exécutée des années 30. Et là, on est tous témoins d'une forme de deuxième renaissance. Souvent, il y avait un cliché qui circulait dans l'armée, il disait de toute façon, le grand livre sur cette guerre, il ne paraîtra que dans 10 ans, etc. Mais on lit tellement de textes puissants déjà, des poèmes magnifiques. Je pense par exemple à un poème qui s'appelle « Position » de Fedir Roudi, qui sont pour moi déjà, qui ont la grandeur de classique. Et donc on est tous avec le sentiment... Je pense qu'on sera aussi tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus émouvant que d'aller... Bon, j'ai eu la chance de citer un concert près de Pokrovsk, pour les soldats qui défendent Pokrov, et qui sont tous âgés d'une cinquantaine d'années. Hein. C'est pas des voilà. Et ils sont venus écouter un poète qui a lu 3 poèmes.
Oh là là.
Ils étaient mais comme des enfants, tellement fascinés et tellement désireux d'écouter ces 3 poèmes. Ouais. J'ai jamais vu ça, moi. C'est la puissance de la poésie. Parce que exactement ce que disait Anne. D'une certaine manière, la guerre nous ramène à ce que la littérature a de plus simple et de plus fondamental, enfin Homère, et le rapport à la poésie en Ukraine, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Voilà, c'est-à-dire que c'est une période et un lieu où il y a beaucoup de créations, mais ce qui est aussi passionnant, c'est qu'il y a énormément de lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a le vrai jeu de va-et-vient, parce qu'on n'écrit pas simplement pour écrire et pour ne pas se soucier de qui nous lit. Il y a le vrai désir du mot, de la pensée. On lit, on écrit, après on en discute. Et beaucoup de militaires, nous, plus comme on est forcément en lien avec les organisations culturelles et puis aussi d'aide, par exemple, culturelle en lien avec l'armée, pour apporter des livres, par exemple, dans des bibliothèques qui ont été détruites ou bien proches de la ligne de front, dans des villages qui ont été désoccupés. Donc, il y a ce lien entre vraiment le militaire, la guerre, et puis cette transmission culturelle. Et on voit que ça marche comme dans une vraie relation.
Alors,
c'est-à-dire qu'il y a un feu.
Alors,
c'est parce que c'est... C'est la cause de ça, c'est que c'est une nation en construction. Et la nation en construction, ça passe par la langue. C'est ce qui s'est passé en France et dans toutes les constructions nationales. Ça passe par la langue, par celle qui dit langue, dit littérature. Ils sont vraiment en train de lutter culturellement. Il y a un boom éditorial uniquement en langue ukrainienne, alors qu'avant, c'était des nations qui publiaient beaucoup plus sur l'ukrainien. Et voilà, ils sont en train de défendre leur existence même. C'est une lutte existentielle pour eux. Et ça passe vraiment par la défense de leur identité. Donc,
alors justement, par rapport à ça...
Olivia, elle veut dire un truc.
Olivia, je voulais reprendre un terme que vous avez employé tout à l'heure et qui est en lien avec ce que viennent de dire... Nos trois amis à Kiev, là, vous avez dit « examiner ». Vous avez employé le verbe « examiner ». Et Anne a parlé des sensations et des pensées. Et David fait des textes sur Facebook qui sont à la fois de la sensation, parce qu'il y a le nerf, et il y a le nerf de la pensée. C'est-à-dire que la littérature, ce n'est pas uniquement le travail de description, c'est justement examiner. Quand on dit examiner, on va jusqu'à miser la pensée. J'essaye de comprendre. Comprendre est passionnant. C'est l'origine du suspense, à mon avis, d'ailleurs. Bien. Donc, voilà, je voudrais qu'on... C'est une des choses que je voulais aborder, parce que je suis fasciné par les textes que vous arrivez à faire à chaud. La pensée, on voit la pensée à chaud. Et ça, je ne pense pas qu'un politologue y arrive, si vous voulez. Je crois que là, il y a la pensée de la littérature. Alors, bon, j'ouvre.
Ouais. Olivia voulait dire quelque chose.
C'est gentil. C'était par rapport à ce que tu disais, Laurent. Je pour ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire la question de la langue, évidemment cruciale, parce que c'est aussi la lutte contre le colonisateur, en fait, ouais. Et celui qui estime qu'il y a une culture supérieure à l'autre, qu'il y a une culture qui existe et l'autre n'existe pas. D'ailleurs, comment est-ce qu'on veut pouvoir détruire quelque chose qui n'existe pas? Ça reste quand même un grand mystère. Mais ce qui est très flagrant, je trouve, quand on discute avec les poètes ou les écrivains ukrainiens, et notamment ceux qui ont dû changer de langue,
Oui.
Et j'ai eu une expérience dernièrement, je vais juste vous raconter cette anecdote pour juste vous montrer à quel point ils sont aussi capables de questionner ça, qui est quand même d'un inconfort et d'une ambiguïté qui est assez terrible, surtout quand elle est incarnée. Je suis en train de travailler avec une poétesse actuellement qui vient du Donbass, qui vient de Donetsk, qui s'appelle Yakiva. On est en train de faire un entretien.
C'est celle dont vous avez parlé dans un des liens qu'on avait dans Facebook, c'est bien ça?
Alors, Yakiva fait partie d'une... C'est une poétesse qui a été conseillée par Fiona Benson, qui est une poétesse anglaise qui est en train d'éditer en ce moment certains poètes ukrainiens, et elle citait Yakiva. Et j'avoue que je ne connaissais pas Yakiva, et j'ai pris contact avec elle. Alors, je vais vous dire une chose. Donc, on est en train de faire notre entretien, mais ça a commencé sur de très mauvaises bases, en fait. Et là-bas, c'est quoi? C'est que Ia, elle vient, donc elle a maintenant une quarantaine, elle vient de Donetsk, et Ia a... Le russe était sa langue maternelle.
Oui.
Et l'ukrainien, elle l'a appris à l'école. Et quand elle est partie de Donetsk en 2014, elle a dû partir parce qu'elle était en danger, puisqu'elle était pro-Maïdan, etc., etc. Donc on lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas trop intérêt à rester dans sa ville, donc elle a tout quitté, donc elle est devenue... en quelque sorte, une réfugiée dans son propre pays, et elle a quitté sa langue.
Ouais.
Mais c'est quelqu'un, on pourrait dire, bon, on quitte, et cet aspect assez abstrait, on passe d'une langue à l'autre, mais c'est quelqu'un qui est en permanence travaillé par la question de quitter une langue pour une autre. Uh-huh. Et elle est tout le temps dans ce passage-là. C'est pas du tout, j'enlève un vêtement, j'en mets un autre, et les choses se passent comme ça, parce que ça, ce serait de la propagande, en fait. De base, enfin je veux dire la propagande qui consiste à dire vous pensez ceci, vous pensez cela, et il n'y a qu'à passer d'une pensée à l'autre, et elle est tout l'inverse. Et quand on rencontre des gens comme ça, quand on parle à des personnes comme ça qui incarnent à ce point les ambiguïtés, les paradoxes, les souffrances, et en même temps le désir d'écrire,
c'est là
où je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire de, tu vois, enfin vraiment de défendre malgré tout, malgré ses blessures, malgré ses ambiguïtés et ses déchirures, C'est très impressionnant. Et ce sont des personnes qui sont d'une exigence, une exigence en termes de création qui est vraiment impressionnante. C'est-à-dire que c'est pas seulement on parle de nos émotions, comme on souffre, comme, etc. Non, ils ont une capacité d'inventivité. Ils sont en anglais, on dirait daring, c'est-à-dire ils osent vraiment des choses qui, moi, franchement, me scotchent, quoi. Vraiment.
Ouais, ouais. Mmh. Avant de vous donner la parole, Laurent. En vous entendant, Olivia, je repensais à une situation linguistique analogue, peut-être, on va vérifier ça ensemble, qu'a vécu Joseph Conrad. C'est-à-dire qu'effectivement, il a vécu l'oppression russe, ses parents ont été tués, et il se retrouve orphelin, et après il adopte la littérature, la langue anglaise, et il lui donne une spécificité depuis sa langue à lui d'origine, qui va marquer finalement même jusqu'à Faulkner, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Voilà, je voulais juste, tout d'un coup, en vous entendant, Olivia, parler de ça, je pensais à cela. Laurent, excusez-moi, je t'ai interrompu.
Non, il n'y a pas du tout, Yakiva n'est pas la seule à avoir fait le transfert du russe vers l'ukrainien, il y en a beaucoup.
Oui.
Mais elle réfléchit et elle en parle. Alors que c'est vrai que surtout... pour des gens qui sont passés du russe à l'ukrainien, qui maintenant parlent ukrainien, ne veulent même plus se souvenir, par exemple, de textes, de citations russes qu'ils savent pourtant, mais ils ne veulent plus. Et il y a quand même, et la langue russe, par exemple, parlée actuellement, donc c'est aussi l'historicité de la langue. Oui. C'est pas le même russe qu'on parlait en 2010 et maintenant. Il n'y a pas la même.
Ma question est difficile, mais comment est-ce que tu pourrais, Anne, résumer ça? Tu dis que c'est pas la même en 10 ans, une langue qui a muté en 10 ans, c'est impressionnant.
Non, sans doute que c'est la même morphologiquement,
grammaticalement. Oui, ça je comprends, oui.
C'est pas la même parce que là, elle incarne quand même la langue de l'agresseur. Donc, même si les gens parlent entre eux, ils peuvent parler russe à la maison, ils essayent quand même à l'extérieur de dire «Dobry den», au lieu de...
Ou alors «Ya ochen malo gavariu paruski», j'ai fait un cauchemar, j'étais dans un espèce de palace à Saint-Pétersbourg, tenez-vous bien, à Saint-Pétersbourg, et ce connard de Poutine s'approche de moi, il y a plein de monde, etc., et il a son petit air comme ça, et moi j'ai fait du russe, mais alors, donc la seule chose que je peux lui dire, il y a «Ochen malo gavariu paruski», je le repousse comme ça et tout. Mais c'était un cauchemar.
La défense. Cauchemar, c'est un mot ukrainien qui vient du Picard.
Oui.
C'est-à-dire que voilà, il y a cet effort aussi de retrouver l'ukrainien, puisque c'était quand même, là, en général, une langue rurale, ancienne, qui était... pas du tout estimé, donc aussi, même si par exemple, Yakiva, elle parle russe, c'est sa langue natale, mais pourquoi aussi? Donc il y a tout un destrave de recouvrement. Et pour en revenir à ça, c'est-à-dire que oui, c'est compliqué, c'est dur, parce que même il y a des souvenirs de gens qui ont eu des conversations entre eux, par exemple, même en 2010, en russe, et maintenant ça serait impossible parce que s'ils sont passés à l'ukrainien, maintenant le russe, même s'ils peuvent le parler, même s'ils s'en souviennent, et bien, il y a un phénomène de rejet. Donc, il y a Kiva, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle ose, justement, mettre les doigts dans cette chose qui est douloureuse et compliquée, qui touche la question de l'essence aussi.
D'ailleurs, j'ai juste une micro-parenthèse à la destination d'Olivia. La prochaine fois que tu auras Yakiva par Zoom ou par vidéo, demande-lui de chanter. Elle chante super bien.
Ah ouais. Ah, c'est vrai.
On va chercher une miniature pour pas qu'elle crame.
Oui, attends.
C'est génial. Ça va être...
je vais aller voir.
Paire de fois, c'est une personne qu'on apprécie énormément.
Valérie, soupir, on aimerait vous entendre.
Oui, oui. Bah, j'écoute, on est passionné par ce qu'on entend.
Je vais Valérie, parce qu'elle est juste en face de vous. Et alors...
Non, mais j'écoute, j'ai beaucoup à apprendre de vous, donc...
On a envie de vous entendre aussi.
J'aurais une question pour Sophie.
Oui.
Alors Sophie, on a entendu dire que vous aviez des connexions avec la Hongrie.
Oui, mon père était d'origine hongroise, oui.
D'accord, et vous êtes traductrice aussi, vous traduisez du hongrois vers le français ou vice-versa?
Oui, du hongrois vers le français.
D'accord. J'imagine que vous avez peut-être que vous avez des contacts dans la diaspora hongroise à Paris ou en France, non? Enfin, vous connaissez peut-être le milieu hongrois.
Plus trop. Plus trop. Je connais quelques autres traducteurs, mais pas vraiment, non. D'autant plus qu'il y a longtemps, la dernière diaspora hongroise, je sais pas, elle date du début des années 80, et contrairement aux Polonais qui sont qui continuent à la troisième génération à parler polonais, les Hongrois s'assimilent, enfin la deuxième génération est complètement assimilée, et c'est je conclus par juste un exemple très concret. Quand j'étudiais le hongrois à l'INALCO, il y avait une dizaine de restaurants et de traiteurs hongrois à Paris. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Parce que les enfants n'ont jamais voulu reprendre le truc, et que les parents avaient fait ça alors qu'ils étaient ingénieurs ou médecins. Voilà, c'est un boulot de dingue. Donc, en fait, ils disparaissent. Quoi. Ils se fondent dans la population française. Mais ce que j'ai en commun avec vous, c'est mon expérience du siège de Sarajevo, de la guerre de Bosnie. Et tout ce que vous dites, mais tout fait écho. Vous ne pouvez pas...